Le service Grande Bande Dessinée, Petit Mickey et meilleur dessinateur de tous les temps présente.
Franquin par Franquin. Proposé par Fred Janin et Nicolas Van Doren.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'André Franquin.
Oui, oui, oui.
Franquin, dessinateur bruxellois hors pair, et un des plus extraordinaires auteurs de bande dessinée de sa génération.
Enfin.
Reconnu, admiré, souvent copié, jamais égalé. Franquin, après avoir repris au pied levé la série Spirou chez Dupuis, que JG avait lui-même reprise à Robvel, s'est montré plus créatif et talentueux que ses prédécesseurs. Franquin s'est révélé particulièrement surdoué. Il est le créateur du Marsupilami, Champignac, Zorglub, Zantafio, Sécotine, Modeste et Pompon, Le Petit Noël, Les Idées Noires, Les Tifous et bien d'autres.
Oui, oui, oui.
Mais surtout,
oui.
Gaston Lagaffe, de loin son personnage préféré. Tous ceux qui ont connu Franquin diront que son talent et son génie n'avaient d'égal que sa modestie. Il n'aimait pas se mettre en avant.
Oh, quelle horreur, c'est abominable.
Parler de lui.
Je plaide coupable.
Au milieu des années 80, Numa Sadoul, un jeune homme passionné de BD, arrive astucieusement à convaincre Franquin de lui donner une longue, longue, très très longue interview sur sa vie et son œuvre.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Les entretiens vont durer plusieurs jours et Numa Sadoul en tirera un livre intitulé « Et Franquin créa la gaffe ».
Enfin.
Les enregistrements sur cassette audio de ces conversations n'ont jamais été offerts au grand public. Vous allez pouvoir les entendre pour la première fois. Mais connaissant la modestie légendaire de Franquin, comment Numa Sadoul s'y est pris pour le piéger? Nous lui avons posé la question.
J'ai proposé très tôt, après avoir fait les entretiens avec Hergé et Gottlieb, qui étaient en 71. Quand j'ai fait Hergé, c'était mes premiers entretiens avec un grand auteur de bande dessinée. Je n'avais pas ni la technique, ni la facilité, ni l'aisance que j'ai eue par la suite. Donc j'ai appris avec Hergé. Hergé, ça a été mon professeur d'entretien, on peut dire. Et donc évidemment, je voulais tout de suite faire ça avec André Franquin. Ça me paraissait tout à fait évident. Et la première fois que j'en ai parlé, donc c'est dans la foulée, quoi, au début des années 70. Il m'a dit, il n'en est pas question, enfin, j'arriverai jamais, c'est pas possible, parler, ça m'est déjà insupportable, mais alors parler pour un bouquin, vous pensez bien que... Voilà, donc ça a été un peu long, parce que si on a lancé ça, disons, je sais pas, en 73, par exemple,
il a fallu
dix ans,
ouais.
Pour que ça aboutisse, oui. De temps en temps, je reviens à la charge, hein, parce qu'entre-temps, j'en ai fait d'autres, Meubius, je sais plus qui, Tardy, etc., et je reviens à la charge, et chaque fois, il me prend ça à la rigolade. C'est jamais agressif ni méchant, hein, toujours très gentil, rigolade. Oui, non, j'ai autre chose à faire. Parler de moi, ça n'a aucun intérêt, ça va emmerder tout le monde, etc. Enfin, donc, on repartait en se disant... on reviendra à la charge un jour ou l'autre, parce que ça ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. S'il y en a bien un qui doit faire cet exercice, c'est lui, quoi. Ça s'est débloqué sans doute parce qu'un jour, je m'en entretenais avec sa femme. Liliane m'a dit, je vais essayer d'intervenir. Peut-être que ça marchera mieux. Donc là, je suppose qu'elle t'a mis dans le coup à ce moment-là, puisque vous y êtes mises toutes les deux pour fabriquer cette espèce de piège... à Callian, cette année-là où il est tombé dedans.
Ce qui s'est passé de mon côté, c'est que je voyais que les livres d'entretien se multipliaient.
Isabelle Franquin.
Et je trouvais que mon père, il avait franchement des choses à dire. Et je pense qu'il avait même des choses intéressantes à dire. Et je regrettais un tout petit peu qu'il ne se mette pas davantage en avant. C'était un regret idiot, parce que c'était pas du tout son style de se mettre en avant. Mais je trouvais que écrire un livre d'entretien avec lui, c'était une vraie opportunité pour qu'il transmette ce qu'il avait à transmettre.
D'autant plus qu'il avait beaucoup de choses à dire.
Il avait beaucoup de choses à dire, comme on peut le lire dans le livre.
Il avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Toujours est-il qu'un jour, donc, je devais aller, je sais pas, sans doute déjeuner là-bas. Et la veille, j'ai reçu un coup de téléphone de Liliane qui me dit « Écoute, c'est le moment ou jamais, donc apporte ton matériel et puis on va bien voir ce qui se passe. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera. » Donc je suis venu avec mon magnétophone, mes cassettes, mes piles de bouquins, parce qu'il fallait pas oublier les piles d'albums, sinon ça allait faire partie du travail. Et au moment du café, après le repas, Liliane se lève et dit « Bon, ben je vais vous laisser ensemble puisque vous avez du travail. »
C'est vache hein, quand on y pense.
C'est tout à fait vache. Et André fait « Quoi ? Comment ? Quel travail ?» Et il nous regarde, il voit que je sors tout mon matériel, j'étais venu avec une valise. Et là, il comprend et il se met à rire.
Il se met à rire, donc ça ne l'a pas choqué.
Non, enfin, ça l'a choqué dans un sens, oui, mais ça ne l'a pas choqué. Ça l'a surpris, mais ça ne l'a pas choqué. Et à partir de ce moment-là, il s'est plié au jeu tout de suite. Et au fur et à mesure, je dois le dire, quand je suis revenu le lendemain ou les jours suivants, c'était alors il était installé complètement dedans et il n'y avait plus aucun problème. De temps en temps, il rappelait que c'était pour lui un problème de raconter sa vie. De toute façon, il n'avait rien à dire de bien et que ça n'intéressait personne. Ça revient.
J'en ai gardé
un ou deux dans le livre.
Oui, en effet.
Mais c'était un running gag, effectivement. Et puis, c'est allé comme ça jusqu'au bout. Et puis après, ben voilà, il a reçu le texte. Il a pas beaucoup travaillé dessus, je dois dire. C'est assez le résultat qui est paru est assez conforme à la version que je lui avais présentée. On a fait très, très peu de corrections, hein, finalement.
Et sur ce coup-là, on peut vraiment comparer avec le travail sur Hergé ?
Qui, lui, est le contraire absolu. Hergé, je lui ai envoyé, je crois, deux ou trois manuscrits différents sur lesquels il a travaillé sur chaque page, raturé, changé les mots. Enfin, j'ai trois états du texte retouchés par Hergé sur les trois années à peu près, oui, où ça a traîné avant que ça ne paraisse. Le travail d'Hergé, ça a été parfois de changer un peu l'ordre des choses. Hergé, à un moment, je lui pose la question, finalement, Tintin, c'est le fils que vous n'avez pas eu et vous avez tout projeté dedans. Et spontanément, il répond oui, probablement, peut-être, c'est vrai. Et sur le texte qu'il a retravaillé, il répond non, je n'avais pas besoin de m'inventer un enfant. Donc il y a quand même parfois des changements radicaux, vraiment des changements de cap. Et il n'y avait pas ça du tout avec Franquin, puisque ce qu'il a dit était assez libre, et ce qui en est sorti est resté assez libre. Et j'étais fort surpris que du côté d'André Franquin, c'était beaucoup plus simple, et ça s'est passé sans problème majeur. J'ai vu sur l'état du manuscrit que je lui ai envoyé qu'il y a quelques pages où il a rajouté au dos des anecdotes ou des choses qu'il rajoutait, mais il y en a assez peu, finalement. On a eu quelques corrections par correspondance. Mmh. J'ai aussi gardé les lettres que j'ai apportées, d'ailleurs, où il me signale les chapitres où il veut des modifications. En général, il veut préciser les choses. Et il y en a un qui est très amusant, c'est qu'il me dit... Il y a une lettre où il me dit « Je me rends compte que je suis très grossier. Je parle sans arrêt de cons, de choses comme ça. » Donc ça, j'ai atténué un peu. Donc il me propose une nouvelle version où il y a moins de cons. Et voilà, bon, c'est un peu ça, quoi. Le travail de Franquin sur son livre a été plutôt ça.
Tiens, Numa, puisque tu nous as apporté les fameuses lettres, tu veux bien nous en lire des extraits ?
Voici, chargé de quelques retouches, auxquelles j'attache de l'importance, les pages concernant la série Spirou depuis la 54 jusqu'à la 193. Je serais ravi si tu voulais bien m'envoyer aussi le début de 1 à 58, que j'ai déjà vu, je sais, mais que j'aimerais beaucoup revoir, souligner « j'aimerais beaucoup ». Car c'est en cours de route que, catastrophé, je me suis rendu compte que je suis un être grossier et excessif. Ce n'est pas la première fois que je découvre ça, d'ailleurs. Et qu'il était indispensable et urgent de trouver des équivalents à « con », « emmerdeur », « dégueulasse », « foutu », tout ça écrit en majuscule, qui transforme mes réponses en une vaste décharge d'ordures.
les mots effroyablement, excessivement, fabuleux, etc., tout ça en majuscule, ont été limés. Qui a dit « ce qui est exagéré est insignifiant » ? Pour certains passages agressifs, j'ai un peu plus sérieusement vérifié que ma rogne repose sur des faits réels. La rancune est durable, mais la mauvaise humeur ne mérite pas d'être conservée. Je joins aussi, et là il a mis une petite flèche et il a écrit dessus « gaffe », je joins aussi les pages modestes et pompons. Là aussi, j'ai apporté des précisions qui me tiennent à cœur. Je vais. Alors, il a commencé une phrase. Je vais. Et puis, comme il ne l'a pas terminé, il a fait un petit dessin de Gaston avec un point d'interrogation là sur la tête qui se demande ce qu'il a écrit. J'espère que tu travailles dans la joie, que tu as du beau soleil, surtout que tes parents vont bien. Remets-leur mes meilleures amitiés. Et puis, que tu vas m'envoyer beaucoup de pages où je vais nettoyer ma rage, mes bavardages vaseux et mes coups de gueule d'imbécile immature. Pléonasme. En attendant, je t'embrasse. Le silence qui suit est de Franquin.
Maintenant qu'on en sait un peu plus, écoutons un épisode de la vie professionnelle de Franquin quand en 1955, il a claqué la porte de chez Spirou pour travailler chez Tintin et créer Modeste et Pompon.
Voilà, Modeste et Pompon. Alors dans quelles circonstances cela a commencé et cela est parti ?
Modeste et Pompon, ça vient d'une brouille entre les éditions Dupuis et moi. Et je suis allé me présenter chez... au Lombard, où j'ai signé assez rapidement un contrat de 5 ans. Entre-temps, je me suis rabiboché avec les éditions Dupuis, et je me suis trouvé, paresseux comme j'étais, je me suis trouvé à la tête d'une planche en plus par semaine. Alors j'ai voulu prendre un truc qui prenne peu de temps, et j'avais déjà un peu une frousse de très longues séries, qui demandent beaucoup de documentation, etc., qui sont des lourds machins pour lesquels je n'ai pas tout à fait le souffle nécessaire, peut-être. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire une histoire un peu à la Bicot, comme il y avait quand j'étais jeune, une histoire, un gag en une seule planche. Je ne doutais de rien parce que je ne savais pas la difficulté de l'entreprise. Et je me suis dit aussi, et je ne vais pas faire comme dans Spirou, je dessine des voitures réelles et des meubles réels et toutes sortes de choses observées. C'est un esclavage, je vais inventer tout.
Ah ben dis donc, quelle erreur!
Là, c'était une erreur, parce que ça m'a pris un temps d'inventer des voitures. Plutôt que de prendre un catalogue, je devais inventer une voiture qui soit cependant dans le style de l'époque. C'était très curieux. Bon, alors je n'avais pas beaucoup d'idées. J'avais dessinoté les deux personnages un petit peu.
Et tu avais déjà Modeste et Pompon en tête quand tu
avais trouvé ? Pas du tout. Pas du tout.
Quand tu as signé avec eux,
pas du tout. Ils sont improvisés et très rapidement, ce qui... peut expliquer un petit peu leur manque de caractère, parce que c'est un manque total de caractère, ces personnages, ce sont des marionnettes assez... Enfin, moi, je les vois, Pompon est gentil, l'autre est une espèce de petit vantard très sympa, etc., mais ce n'est pas de vrai caractère psychologique. Alors, ils m'ont trouvé le nom de Modeste dans le calendrier.
Ah bon ?
J'avais trouvé Pompon, parce qu'elle avait des pompons dans les cheveux. Et voilà, j'ai commencé une histoire. J'ai commencé quelques planches. Et puis j'ai rencontré Greg, que j'avais vu, qui était venu chez moi me montrer des planches il y avait longtemps, etc. Il dessinait effroyablement mal, mais il avait de l'idée. Il dessinait mal à l'époque, je veux dire.
Je pense qu'on retrouve pas mal de mon père chez Modeste.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Voilà.
Et que ça préfigure tout ce qu'il a mis ensuite dans Gaston.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
C'est vrai. Félix est une sorte de pré-Gaston. Hein. C'est lui qui faisait des gaffes, finalement.
Oui, et puis il est inventif. Oui, puis c'est un Gaston un peu emmerdant et un peu collant lui-même.
Ouais.
Mais Modeste a bien des traits de Fantasio aussi, hein, lui.
Oui, c'est exact.
Mais... quand j'étais plus petite, je préférais Modeste et Pompon parce que je retrouvais un peu l'univers de la maison dans l'univers de Modeste, ne fût-ce que par les meubles, le choix des meubles. Et je pense que la lampe de Picasso que Félix brise pour montrer les vertus de la colle machin chose qu'il veut vendre à Modeste, le vase de Picasso, en fait, on l'a eu dans la maison. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé par après, donc il a dû être cassé aussi. Oui. Et donc il y a les meubles. Et alors le caractère de Modeste, ce qui est assez troublant, c'est que donc les scénarios ont été faits par beaucoup d'autres confrères et amis, et notamment Greg et Goscinny. Et ce qui m'a vraiment toujours troublée a posteriori, les gags où je découvrais, ou qui me semblaient être le plus proche de mon père et le plus proche de ce qu'on vivait dans la maison, ont été faits par Greg. Et notamment le gag du pot de confiture. Alors on me demande, est-ce que mon père faisait des colères terribles ? Oui, quand un pot de confiture lui résistait. Et là, Modeste pique une colère digne de mon père. Et le gag est vraiment symptomatique de ce qui pouvait arriver à la maison. Alors il y a un autre gag qui m'a fascinée aussi quand j'ai découvert que c'était Greg qui l'avait scénarisé. C'est le gag de Modeste il va sortir avec Pompon, il se présente chez Pompon et Pompon regarde des pieds à la tête et elle dit mais tes chaussures ne vont pas du tout avec ton costume, et s'enchaîne tout un processus où il va changer de chaussures, mais cette fois-là, c'est les gants qui ne se marient pas avec la couleur des chaussures. Et puis quand il a changé de gants, elle s'aperçoit que la cravate, non, ça jure. Avec... Et il finit par mettre toutes ses cravates à son cou, une chaussure différente à chaque pied, un gant différent, et dans une crise de rage en disant « maintenant, ça suffit ». Mais c'est une scène qui était récurrente dans l'histoire du couple de mes parents. C'est quand mes parents devaient sortir. Donc ma mère s'apprêtait, elle se maquillait fort longuement, elle soignait sa coiffure, ça prenait pas mal de temps. Mon père, comme souvent les hommes, ne mettait pas autant de temps à enfiler un costume, à se raser, à se coiffer. Donc mon père descendait, à la bonne heure, il descendait, et ma mère était encore en train de se maquiller.
C'est très énervant.
C'est effrayant.
Ça parle à beaucoup de gens.
Oui, voilà.
Et donc, sexisme, attention.
Mon père tournait en rond, en essayant de se calmer, etc. Et puis ma mère avait fini tout son maquillage, elle était enfin prête. Elle se tournait vers mon père en souriant, comme Pompon. Elle le regardait des pieds à la tête et elle disait « Mais André !» Et donc, s'ensuivait, la chemise n'allait pas, la cravate, il y avait un petit détail qui n'allait pas. Et elle faisait une vie pas possible jusqu'à ce que mon père aille se changer. Il écumait de colère. Enfin bon, ça lui sortait par les naseaux, par les oreilles. Il était fou de rage. Il était hyper énervé. Mais c'est tout de même étrange de trouver une scène aussi proche de la vie conjugale de mes parents, écrite par un autre pour mon père.
Mais Greg était, en effet, il avait au départ, il avait un dialogue assez abondant, dont il s'est moqué lui-même dans Achille Talon, par exemple. C'est devenu un gag chez lui. L'abondance, le bavardage est devenu le caractère, entre autres, de ce personnage. Et Et dans Modeste et Pompon, il n'était pas trop abondant. Il savait que c'était une histoire simple. C'est un remarquable scénariste.
Hein. Attends, chronologiquement, est-ce que tu te souviens de la raison pour laquelle tu t'es engueulé avec les Dupuis ?
Parfaitement, oui.
C'était une question de contrat, je suppose ?
C'était une question de sous, oui. Une question de... Il m'avait promis, en échange, un tirage remarquable pour l'époque, pour mon prochain album. Et l'album est sorti avec un tirage tout à fait ordinaire. Et je me dis, mais ils m'ont promis, etc. Et comme j'ai un désordre fou, je cherchais comme un idiot la lettre. J'ai mis un temps fou, j'ai mis 15 jours à la retrouver. Pendant ce temps-là, je leur ai envoyé des lettres en leur disant que c'était injuste, qu'on m'avait promis à telle occasion. J'en avais une très bonne mémoire. Et un jour, j'ai heureusement retrouvé la lettre. Et j'ai envoyé ma démission aussi sec en leur disant que j'avais retrouvé la lettre où ils me promettaient. Il n'y avait pas encore de photocopie facile à l'époque, mais je leur citais les termes de la lettre.
Et sur le moment, ils ont accepté ta démission ?
Ils n'ont pas du tout accepté ma démission. Le temps de réagir, j'étais déjà inscrit chez l'autre.
Oui, tu as été vite.
Ah oui.
Ils t'ont accueilli à bras ouverts.
Je râlais tellement que...
Mais tu as décidé d'aller voir ailleurs, mais tu n'abandonnais pas Spirou pour autant.
Ah si,
j'ai
abandonné Spirou totalement, j'étais vraiment tellement, ils avaient été tellement injustes et malhonnêtes que J'étais vraiment dégoûté.
Mais ça, tu ne leur avais pas dit tout d'abord.
Si, ils avaient eu une lettre de démission et tout le truc. Oui, oui, oui.
Ah oui.
Évidemment, oui.
Et entre-temps, donc, ils ont arrangé l'affaire.
Oui, après...
Rapidement.
Assez rapidement, oui. L'éditeur s'est enfin dérangé en personne, ce que je ne voulais pas tellement. Et il est venu me demander, il est venu m'expliquer que ce n'était pas de sa faute, parce qu'il n'était pas au courant de cette injustice et qu'en effet, j'avais raison, etc. Tu parles, j'avais retrouvé une lettre écrite où il me promettait un certain truc qu'il ne voulait plus m'accorder parce que ce n'était pas dans les coutumes de la maison, disait-il. Alors que c'était une chose qu'il m'avait promise en échange d'une histoire que je leur avais accordée et qui m'a coûté très cher par après. Là, ils m'ont tué vraiment. Malgré cette histoire-là, ils m'ont tué vraiment salement.
Pourtant, tu étais bien installé dans la maison à cette époque-là.
Oui, j'étais bien installé, mais j'étais trop bête commercialement. J'étais inintelligent, comme j'ai toujours été. Et je n'étais jamais à la hauteur de la situation quand je discutais affaires avec eux, etc. Je comprenais mal. J'étais le gamin de... Bon, j'ai toujours eu un âge mental fort inférieur à ce qu'il apparaît. Et je suis resté comme ça en grande partie. D'ailleurs, maintenant, ça va mieux pour certaines choses.
Et tu as signé tout de suite chez Lombard?
Oui, j'ai signé assez facile, assez rapidement, oui.
Et là, tu as fait attention à ce qu'on te faisait signer?
Oh, oui, j'ai essayé.
Et c'est tout de suite après que les Dupuis sont venus te rechercher?
Tout de suite après, oui.
Et là, tu t'es trouvé comme un imbécile, coincé entre deux...
Oui,
entre deux
et certains m'ont trouvé un type très fort et fortiche et tout, parce que comment as-tu réussi ce coup-là de travailler à la fois pour l'un et pour l'autre? Et à la vérité, c'était un coup que personne ne réussissait, parce que il y avait une espèce de possessivité des éditeurs qui gardaient leur gens chez eux, et qui... Il y avait aussi une espèce, sans doute, une espèce de gentleman's agreement qui voulait qu'on ne piquait pas le dessinateur de la concurrence, etc. Ici, ça n'a pas joué parce que j'étais arrivé fort de mauvaise humeur contre Dupuis. Et puis, je crois que je tombais bien parce qu'il y avait une espèce de jalousie de la part de Tintin vis-à-vis de Spirou, parce que Spirou était plus amusant.
Est-ce que tu t'es intégré à l'équipe du journal?
Assez peu, donc j'avais pas le temps.
Donc tu es toujours resté un marginal dans Tintin?
Un petit peu, oui, oui.
Et tu n'avais qu'une envie, c'était que tes 5 ans finissent, tu ne voulais pas renouveler?
Oui, parce que j'étais très emmerdé par Charles Dupuis, auquel j'avais, avec ma lâcheté habituelle, je n'avais pas osé avouer que j'avais un contrat de 5 ans. Et Charles Dupuis me disait tout le temps, vous êtes chez Tintin, là, ça me déplaît, ça m'attriste, je suis triste. Et qu'est-ce que vous restez faire chez Tintin, me disait-il.
Il t'a dit ça pendant 5 ans.
Il m'a dit ça avec insistance. Et c'était vraiment une vie impossible. Et je suis arrivé à rester un petit peu moins longtemps que prévu. Et j'ai eu un accord avec Leblanc pour faire reprendre la série par un autre.
En 1959, Franquin cède Modeste et Pompon aux éditions du Lombard. La série sera reprise par Dino Attanasio.
Le meilleur moment, c'est quand il m'a proposé de reprendre son Modeste Pompon, enfin, qu'il avait créé, c'est ça. Et alors, j'allais 2 fois par semaine chez lui, à la maison, où on s'asseyait sur un fauteuil comme celui qui dessinait dans Modeste, et il m'expliquait beaucoup de choses. L'anecdote principale, c'est qu'à un certain moment, il s'est mis sur une table, il dit, voilà, je vais t'apprendre... Mon idée de comment je compte dessiner, c'est... Parce qu'il ne faut pas copier pour copier. Il voulait que les gens comprennent les personnages. Et alors, il faisait les premiers personnages dans une attitude, je me rappelle très bien. Et après, non, ça, c'est pas bon, sur lui-même. Et après, on faisait une deuxième. Et comme ça, il a fait une série de 10 personnages. Et à la fin, il dit, ah, ça, c'est bon. Et c'était comme le premier. Il était tellement perfectionniste... Et je dois dire que c'est parmi les gens que je suis heureux d'avoir rencontré, que je dirais même après la mort, comme on dit toujours, quand on meurt, tout le monde est bon, tout le monde, etc. Non, mais lui était vraiment un brave type, très correct, et surtout n'avait pas une partie d'offense dans ses propos, jamais. Franquin, c'était une rencontre formidable.
Voilà, laissons le mot de la fin de cet épisode à Numa Sadoul à propos de ses entretiens.
De toute façon, quand on écoute l'intégralité de ces entretiens, on voit que c'est toujours très joyeux. Hein. D'abord, on sent qu'il y a pris un certain plaisir. C'est venu assez vite, parce que le fait de raconter, ça lui a permis de se remémorer un tas de choses, ou de porter des jugements a posteriori sur un tas de choses qu'il a faites, pas forcément négatifs d'ailleurs. Et on voit que ça rigole beaucoup, hein. Et comme je dis souvent, c'est le dépressif le plus drôle et le plus heureux de vivre que j'avais connu. Hein. J'en ai connu un autre après, c'était Gottlieb, dans le genre. Hein.
Allô Franquin ? Salut, c'est Marcel ici, Marcel Gottlieb. Je t'appelle de Paris. Voilà, alors j'ai un petit truc à te demander, juste un petit service de rien du tout. Figure-toi que on ne sait plus qui va dessiner Super Dupont. Et j'ai eu une idée géniale. Pourquoi tu dessinerais pas la série Super Dupont après tout? Hein? Ah? Ah bon? Non? Ah bon? Bon, bah écoute, va te faire voir. Et puis, mais si c'est ça, je vais demander à Uderzo ou à Kurtzman. Voilà. Salut, méchant. Vilain.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries? Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Squeak. Du gouffre.
Garanti pur schlick.
Bon feu. Quelle merde!
Oh, quelle horreur ici! Voilà.
Maintenant, je vais nourrir mon chat. Je trouve que ceci est relativement réussi tout de même avec le moyen du bois, mais c'est relativement réussi. Parce que... Je plaide coupable.
On peut s'amuser avec des conneries.